Voilà. Où j'en étais? Oui, l'acte est, excusez-moi,
Le cas de l'avortement.
en fin de journée, j'ai tendance à, j'en suis à
C'était le cas de l'avortement.
ma sixième heure de cours, donc je commence un peu à fatiguer. Et donc
Et
l'avortement
vous
et
l'avez revu.
la fin de vie, c'est pareil, c'est-à-dire il n'est jamais permis de retirer la vie. Donc c'est toujours un acte mauvais parce que l'objet est mauvais. D'accord? Bon. Puis on peut multiplier les exemples comme ça. La peine de mort, hein, de toute manière, hein, la peine de mort, bah, comme catholique, on ne peut pas soutenir la peine de mort. Parce que dans le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, on ne peut pas donner la mort. Et pourquoi dans le catéchisme? Parce que dans le décalogue, pardon, les 10 commandements, on a beau dire que c'est les 10 paroles, en fait, pour les gens, ça reste les 10 commandements, hein, pour l'essentiel. Il n'est jamais permis de tuer. Donc, il n'est pas possible de passer les gens à la guillotine ou de les fusiller, etc. Bon.
C'est pour ça qu'à une certaine période, les évêques faisaient rendre justice par d'autres personnes. C'était une façon aussi de jouer les Ponce-Pilate.
Oui, alors, et puis ça ne résout pas la question de la guerre, hein, parce que
Je ne
pendant.
parle pas de la guerre, là. Je
Mais.
parle effectivement des gens qui se trouvaient, pour des raisons X, Y ou Z, prisonniers,
Oui.
condamnés, etc.
Oui, je suis bien d'accord, mais c'est le même, c'est des problèmes analogues sur la question de la guerre, parce que Saint Thomas lui-même définit des critères de guerre juste. Et donc. On n'a pas toujours complètement respecté l'idée qu'il ne faut pas tuer son prochain. Hein. Quand c'est un ennemi et quand il s'agit de défendre les siens, bon, ça s'est dit, ça. Alors, la morale de l'acte, elle est très très fortement présente dans le catéchisme. C'est vrai qu'elle est inspirée de saint Thomas d'Aquin, c'est vrai. Mais je vous rappelle que saint Thomas d'Aquin inscrivait nos actes dans une dynamique vertueuse, hein, ou un itinéraire vertueux destiné à nous amener vers le royaume. Et je prenais cette image, chaque acte moral que nous posons est un pas qui nous mène vers le royaume. Voilà, c'est un chemin vertueux. C'est plus du tout comme ça que nos contemporains ont, dans le cadre des éthiques séculières, des éthiques pluralistes en démocratie et des éthiques séculières, sécularisé, c'est-à-dire après la déchristianisation, il y a ce qu'on est en train de dire ce soir, enfin le modèle de saint Thomas d'Aquin, l'équilibre de saint Thomas d'Aquin ne parle plus à grand monde, hein, sauf aux chrétiens, aux catholiques en particulier. Hein. Les vertus ont, d'une certaine manière, les vertus avaient largement disparu. Alors, il y a un renouveau des vertus depuis quelques années, mais elles avaient largement disparu, et on ne retenait que l'acte. C'est-à-dire, on ne retient toujours que l'acte. Mais si vous vous souvenez des critères que j'ai donnés, d'ailleurs je les ai répétés il y a quelques instants, un acte est bon si l'objet est bon, la fin est bonne et les circonstances. Pour les catholiques, ce qui va être très important, c'est l'objet. Parce que ça coince ou ça passe, ça casse ou ça passe, si je caricature. Hein. Mais pour nos contemporains, c'est pas du tout la même chose. Pour nos contemporains, c'est la finalité, c'est le point 2 qui va compter. C'est-à-dire, si les conséquences, si la fin de mon action est bonne, si le projet que je veux construire est bon, c'est ça qui va donner le là, enfin, qui va donner la bonté ou pas de l'action que je vais, la décision que je vais poser. C'est la finalité. Ce qui n'est pas exactement possible pour un chrétien ou même pour un catholique. Nous, on est très focalisé sur l'objet, bon ou mauvais. Nos contemporains, je veux dire les éthiques sécularisées, sont davantage centrées sur la finalité de l'action, les conséquences, les conséquences de l'action. J'envoie un SMS un peu urgent, excusez-moi. Voilà. Alors, on en est là, et je vous avais dit, au XIIIe siècle, saint Thomas représente, on pourrait dire, le moment le plus abouti, et en même temps, le moment qui n'aura pas de suite, je suis un peu sévère en disant ça, mais qui n'aura pas de suite dans la théologie morale. Parce que j'avais esquissé ça, je crois, avec vous la dernière fois, les premiers disciples de saint Thomas ont trahi saint Thomas. C'est-à-dire que les premiers commentateurs, considérés comme les plus de saint Thomas, se sont éloignés de saint Thomas quelques dizaines d'années après sa mort. Rien ne va plus. Et le parfait équilibre des vertus, cardinal, théologal, l'itinéraire vertueux vers le royaume, tout ça va être peu à peu mis de côté, de sorte que les moralistes, après saint Thomas d'Aquin, vont, et c'est la grande cassure, c'est la grande cassure, les moralistes vont faire de la morale sans parler du salut. Les moralistes vont faire de la morale sans parler de la grâce, du don de Dieu, ou si vous voulez, de la miséricorde. Et ils vont traiter la morale en elle-même, pour elle-même, de plus en plus séparée de la question du salut. Ça, c'est dès la fin du XIIIe siècle et a fortiori au XIVe siècle, avec la figure de quelqu'un que on connaît un petit peu, enfin, qui a donné le nom, d'ailleurs c'est son propre nom, à un courant de pensée au XIVe siècle, c'est Guillaume d'Ockham. Ockham, de O-C-A-M, il y a une autre orthographe, O-C-K-A-M, Guillaume d'Ockham, et on parle de l'occamisme. Alors, qu'est-ce que l'occamisme? L'occamisme, donc, voyez, ce n'est pas tellement éloigné de saint Thomas, hein, c'est à peine un siècle après. Hein. L'occamisme, c'est la focalisation de la morale chrétienne sur l'acte lui-même. La vie morale est considérée comme une série d'actes indépendants les uns les autres, que vous posez. Tantôt ils sont bons, tantôt ils sont mauvais, hein, tantôt vous avez pris la bonne décision, tantôt vous avez pris la mauvaise décision, et on parle de moins en moins de la perspective des vertus, qui était celle de saint Thomas, et du chemin vertueux vers le royaume. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est l'acte évalué en lui-même. Autrement dit, il y a une concentration de la morale sur la loi. Soit mon acte est conforme à la loi, et alors je peux décider en conscience que je choisis de poser cet acte, soit il n'est pas conforme, et alors il ne faut pas que je le fasse. Hein? C'est très important cette affaire-là parce que pour moi, Guillaume d'Ockham, au XIVe siècle, c'est le début de la période moderne, si vous voulez. Hein? Vous voyez, on est au XIVe siècle et tout à l'heure, je vous disais que nos contemporains se focalisent sur l'acte et les conséquences de l'acte. Ben, c'est au XIVe siècle que la chose a été rendue possible par Guillaume d'Ockham. Et ça, c'est une rupture. C'est comme si aujourd'hui, vous tentiez d'être théologien, théologienne, moraliste, sans parler de l'Évangile. Je caricature, hein. sans parler du don de Dieu, sans parler de la miséricorde. Vous ne parlez que de la loi et vous ne parlez que des cas. Vous faites des études de cas. Et le courant qui se met en place avec Guillaume d'Ockham et dans les siècles qui vont suivre, c'est le courant des études de cas. Alors ça porte un nom, hein, qui s'appelle, ça s'appelle la casuistique. La casuistique, c'est un courant très puissant, qui est encore très vivant aujourd'hui, qui est très intéressant, hein, qui concerne avant tout les juristes. Et donc, c'est l'introduction, finalement, du droit ou d'une perspective juridique dans la théologie morale. La théologie morale va étudier des cas.
C'est-à-dire que la loi remplace la conscience en partie, quoi.
Oui et non, parce que en fait, ce sont des cas de conscience. Quand vous dites aujourd'hui, par exemple, j'ai un conflit de conscience, hein, je suis tiraillé, j'arrive pas à me décider, c'est très complexe, il y a des contradictions, j'arrive pas à décider. Vous avez un cas de conscience. Le propre des études de cas, c'est d'étudier des cas de conscience. Et la conscience se décide en fonction de telle ou telle option après avoir travaillé le cas. C'est ce qu'on appelle une étude de cas. Par exemple, aujourd'hui, quand vous faites partie d'un comité d'éthique, par exemple dans un hôpital, les comités d'éthique travaillent sur des cas. Et des cas de conscience, parce que je vous garantis que ce n'est pas facile pour un médecin qui fait de l'oncologie ou un médecin qui fait des soins palliatifs, de se décider en conscience, par exemple, sur le choix de tel ou tel traitement. Prenez le cas d'un traitement très onéreux que vous allez administrer à quelqu'un qui a un cancer du poumon et qui continue à fumer, alors que le voisin a un cancer du poumon et il ne fume pas. Alors, on fait quoi? On retire le traitement à l'un pour le donner à l'autre. Voilà. Enfin, c'est des cas comme ça, si vous voulez. Hein. Eh bien, cette étude, les études de cas, hein, dans les comités d'éthique, on nous apporte des cas, puis on les travaille ensemble, dans une éthique délibérative, une éthique qu'on essaye la plus consensuelle possible, mais ce n'est pas toujours possible. On travaille ensemble des cas. Hein. Eh bien, ça, c'est l'origine historique de ces études de cas, c'est la casuistique, qui, encore une fois, se concentre sur le cas de conscience et le cas de conscience évalué en fonction de la bonté de l'acte ou la malice de l'acte. La bonté de l'acte ou la malice de l'acte dépendent aujourd'hui, par exemple, hein, très fortement, des conséquences de ce que escompte de mon action. Ça, c'est possible aujourd'hui parce que au XIVe siècle, Ockham a introduit cette délibération. Si vous voulez, c'est votre loi intérieure, votre conscience, pour le coup, c'est à peu près la même chose, qui se positionne en fonction du cas dans lequel vous êtes invité à délibérer, au profit duquel vous êtes invité à délibérer. Hein. Et la vie morale n'est plus qu'une succession de cas de conscience, pour vous ou pour autrui, avec donc très fort centré sur la loi, l'acte, la bonté ou la malice de l'acte. Bon, ça c'est possible dès le XIVe siècle, c'est une perspective qui est quand même, je ne dirais pas étrangère à saint Thomas d'Aquin, mais vous avez bien compris que ce n'est pas du tout ce qu'il pratiquait. Hein. Je vous ai donné le... Je crois, je ne sais plus si c'était à votre groupe ou à celui de l'après-midi, l'image qu'utilisaient les pères de l'Église, et qui est tout à fait une image que saint Thomas d'Aquin pourrait revendiquer, hein, à savoir le péché originel. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le péché originel nous a fait perdre la ressemblance, disent les pères de l'Église. Mais, vous savez, il nous reste l'image. Le pire des pécheurs, qui se vautre dans le pire des péchés, un million de fois, reste toujours à l'image de Dieu. Parce que personne ne peut effacer l'image de Dieu en nous, même pas Satan, personne. Mais on a perdu la ressemblance. Les pères de l'Église diraient, on retrouve la ressemblance en posant des actes humains qui nous mènent vers le royaume. Ça, c'était la perspective des pères, c'est encore la perspective de saint Thomas d'Aquin. Guillaume d'Ockham s'en fiche complètement. C'est pourquoi, et pourquoi il peut s'en ficher, si vous voulez, parce qu'on a séparé la question de la morale de la question du salut, en gros. Enfin, je fais ça à la serpe, mais on traite la morale, on sort la deuxième partie, si vous voulez, de la somme de théologie, dont je vous ai parlé la dernière fois, on sort la partie morale et on l'isole du chemin vers le salut. Ce que le pape François appellerait la miséricorde, la miséricorde pastorale, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le cas de conscience en lui-même. Alors ça, c'est la caractéristique de Guillaume d'Ockham, c'est la caractéristique des casuistes, la casuistique. Alors, il y a une théologie chez Guillaume d'Ockham, mais alors, quelle théologie ? C'est la théologie de la toute-puissance de Dieu. Face à la toute-puissance de Dieu, qui peut faire de nous, êtres humains, ce qu'il veut, se dresse, d'une certaine manière, la toute-puissance de l'homme qui décide en conscience. Mais vous sentez bien que la toute-puissance de l'homme contre la toute-puissance de Dieu, il y en a un qui va être perdant à un moment ou à un autre. Et en principe, c'est la créature humaine. Et donc, la toute-puissance de Dieu, en fait, chez Guillaume d'Ockham, c'est l'arbitraire de Dieu. Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Il nous aime, il pourrait très bien ne plus nous aimer, il pourrait nous condamner. Perspective totalement étrangère à saint Thomas d'Aquin, mais c'est possible pour Guillaume d'Ockham. Mais chez Guillaume d'Ockham, vous trouvez la racine de la conception moderne de la liberté. L'homme est libre, au sens où on l'entend chez les modernes, chez saint Thomas. C'est-à-dire, il est libre de décider en conscience et de trancher. Donc, avec Guillaume d'Ockham, pour répondre, ça me permet de répondre à votre question, Michel, c'est avec Guillaume d'Ockham, et les études de cas, la casuistique, devient centrale l'idée d'une conscience morale libre et autonome qui décide par elle-même. Ce qui est la racine de la vie moderne. Vous voyez, la vie moderne sécularisée, elle n'a plus besoin de Dieu pour délibérer en conscience. Et moi, j'interprète ça, mais je ne suis pas le seul à l'interpréter comme ça. Cette évolution n'a été possible que parce que, encore une fois, le traité de la grâce chez saint Thomas d'Aquin a été isolé, séparé de la morale. Et alors, on ne fait plus que de la... je dis souvent, il ne faut jamais laisser la morale aux moralistes. Parce que si on laisse la morale aux moralistes, finalement, on ne fait plus beaucoup de théologie, vous savez. On étudie les cas. Donc, vous voyez, c'est la vie moderne. Moi, je pense que la conscience morale moderne, elle naît au XIVe siècle, chez Ockham. Je vous parlais des thomistes qui étaient meilleurs amis, ses plus fidèles disciples, et comme vous savez, ça arrive souvent dans l'histoire de la pensée, les sont souvent ceux qu'ils trahissent plus vite, pas seulement en politique d'ailleurs. Vous êtes fidèle au général de Gaulle et puis vous trahissez Paul à l'arrière. c'est pareil. Les plus, en théorie, les plus proches de saint Thomas d'Aquin, les plus proches, hein, les commentateurs directs de saint Thomas d'Aquin se sont éloignés de saint Thomas d'Aquin. Et ils l'ont fait de deux manières. La première, c'est que après saint Thomas d'Aquin, la morale est devenue de plus en plus spéculative. De plus en plus spéculative, hein, de plus en plus conceptuelle, si vous voulez. Spéculative, donc de plus en plus difficile. Et puis, par une deuxième ligne force, si vous voulez, bon, on en a parlé, hein, savoir, la morale c'est de plus en plus juridicisée. Juridicisée. On y a mis du droit. Songez, par exemple, vous avez probablement connu ça, ou vos parents, vos grands-parents, hein, quand on allait se confesser, on allait au tribunal de la pénitence. Le tribunal. Le prêtre n'était pas seulement le médecin de l'âme, c'était aussi le juge de l'âme. À Rome, vous avez toujours le tribunal de la pénitencerie apostolique. Au Concile de Trente, donc au XVIe siècle, en réaction à la Réforme, les pères du Concile de Trente, dans le décret sur la confession sacramentelle, écrivent que le pénitent, tenez-vous bien, doit confesser au prêtre, je cite, « tous les plis et les replis de sa conscience ». Confesser tous les plis et les replis de la conscience. Au prêtre, qui est un juge, hein, on va au tribunal. Donc, c'est à ce moment-là où la morale devient une morale de plus en plus judiciaire et où le prêtre prend de plus en plus la figure du juge. Donc, une morale qui, après saint Thomas, perd le sens. J'allais dire, la morale perd la boule, après saint Thomas. Elle fait du droit, elle est spéculative, et faisant du droit, elle étudie les cas de conscience. Alors, j'ai parlé un petit peu de Guillaume d'Ockham. Il faudrait aussi, au moins pour que vous connaissiez les noms, vous pourrez les retrouver, donner le nom de quelques grands thomistes qui sont officiellement des commentateurs de saint Thomas. À mon sens, je ne suis pas le seul, qui se sont quand même beaucoup éloignés de saint Thomas. Alors, les principaux noms que vous pouvez noter, si vous avez le courage, vous pouvez aller en bibliothèque pour travailler tel ou tel, c'est quand même très complexe, hein. Il y en a à peu près trois qui sont les plus connus. Il y a Jean de saint Thomas. Il y a Cachetan. Cachetan, ça s'écrit C-A-J-E-T-A-N. Et puis, il y a un autre qui s'appelle Suarez. Donc, Jean de saint Thomas, Cachetan, Suarez, c'est les thomistes les plus... c'est après saint Thomas, qui ont le profil que je vous ai décrit, c'est-à-dire très spéculatif et très juridique. Ils sont d'ailleurs très différents les uns des autres. La somme de théologie que je vous ai montré la dernière fois, je ne sais pas si je vous ai dit que la somme de théologie, c'était un ouvrage pour les nuls. Hein. C'est-à-dire que la somme de théologie dont je vous ai montré les volumes, énorme. C'était un ouvrage que saint Thomas d'Aquin a écrit pour les débutants en première année de fac. Quand on prend la somme de théologie aujourd'hui, on n'est pas un peu initié, on est complètement paumé. Hein. Moi, je me rappelle de théologie morale, même mon premier cours sur saint Thomas, j'étais complètement perdu. Et c'est encore bien pire avec Cachetan, Jean de saint Thomas, Suarez. Je peux vous donner un nom aussi d'un théologien thomiste français. Alors, on va pousser un petit cocorico. Il est français. Il a quand même compté dans la théologie morale. Thomiste, il était cardinal. Il s'appelait Billuart. B-I-2-L-U-A-R-T. Le 18e siècle. Bon. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, hein, dominicains essentiellement, ou bien des prêtres séculiers, ou des franciscains, des jésuites. Bon, voilà. C'est, avec en commun, hein, moi je trouve, une cassure par rapport à Thomas, et puis ces deux profils, très spéculatifs, très critiques. Bon, ça va à peu près. Alors, vous voyez, le problème, c'est que nous sommes les héritiers, nous, catholiques du XXIe siècle, nous sommes les héritiers des pères de l'Église, ça c'est évident, mais de saint Thomas, c'est évident. Hein, je vous ai donné l'exemple du catéchisme. Le catéchisme de l'Église catholique, il est quand même largement inspiré de saint Thomas d'Aquin. Très, très largement. Hein, avec quand même une place des vertus qui est tout à fait conséquente et très bien présentée. Donc, il est pas si mal que ça, le catéchisme de l'Église catholique, si vous me permettez. Hein. Mais, donc, il est largement inspiré de saint Thomas. Bon. Et c'est bien parce que, après saint Thomas, encore une fois, la boule les études de cas, la casuistique, et alors il faut que un autre nom, qui est un nom important, qui est un dominicain lui aussi, qui s'appelait Barthélemy ou Bartholomé de Médina, M-E-D-I-N-A. Alors Médina, puisqu'on parlait des cas de conscience, se sont formés après saint Thomas d'Aquin des écoles de la conscience, des courants de pensée autonomes les uns par rapport aux autres, différents, et qui représentaient chacun une école de la conscience pour traiter les cas de conscience. Alors là, accrochez vos ceintures, parce que chaque école de conscience a un nom, en général affreux, vous allez voir, désigne le cas de conscience. Enfin, l'école, pardon, auquel chaque théologien, si vous voulez, c'est comme les politiques qui appartenaient au PS ou à l'UMP, etc. Les théologiens appartenaient à une école. Après saint Thomas d'Aquin, hein, en gros, 14e siècle, ils avaient une école des cas de conscience. Alors, il y en a quatre grandes. La première, la plus ancienne, elle a été créée par donc, ce fameux Médina, qui a créé l'école qu'on appelle le probabilisme. Probabilisme. Probabilisme, ça veut dire que lorsque vous avez un cas de conscience, et que vous n'arrivez pas à trancher. La garantie pour bien décider, la garantie pour choisir un acte bon, pour poser un acte bon, c'est de choisir l'option probable. La seule probabilité que ce soit bon rend l'acte bon et valide votre décision. On trouverait ça aujourd'hui appliqué, par exemple, on va rester dans le monde de la santé, pour vous donner quelques exemples, hein, à l'éthique du médicament. On a beaucoup entendu parler pendant le Covid du bénéfice-risque, hein, le bénéfice-risque d'un vaccin, par exemple. D'accord ? S'il est établi par les meilleures études, vous savez, randomisées en double aveugle, hein, pendant 2 ans, on nous a bassinés avec les études randomisées en double aveugle, hein, si il est établi que le vaccin, probablement le vaccin est bon, par exemple, je donne aussi pour les enfants, probablement, eh bien ça suffit pour décider de la vaccination des enfants. Il n'en faut pas plus. C'est probable, ça suffit. On dirait aujourd'hui, pour traduire, l'école probabiliste, c'est l'école des modérés, si vous voulez. C'est l'école du... on pourrait dire peut-être que M. Macron est un probabiliste. Voilà. Il est probable qu'il y ait un meilleur bénéfice-risque du vaccin et donc il vaille mieux utiliser le vaccin en population générale.
C'est ce que pensait le pape François.
Oui, ce que pensait le pape François. Alors, le pape François, si vous vous souvenez, il a démarré très vite sur le vaccin.
Oui.
Très très vite. Et il a même menacé de licenciement les personnes qui n'étaient pas vaccinées au Vatican. Donc il fallait se vacciner. C'était déontologique pour le coup. C'était à l'époque où bon, il était probable que le vaccin était bon et ça suffisait.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est une école de la conscience. C'est le probabilisme. Donc le pape a fait du probabilisme. Il n'est pas le seul. Hein. Monsieur Véran a fait du probabilisme. On a tous à peu, enfin on n'a pas eu le choix, je dois dire, mais on a tous à peu près fait du probabilisme. Alors ça, cette école de la conscience là, elle a été créée par Bartolomé de Médina. C'est l'école massive la plus courante et qui encore aujourd'hui, vous voyez, je donne l'exemple de l'éthique du médicament, ça suffit pour prescrire un médicament ou un vaccin ou un médicament, quel qu'il soit. Enfin, ça peut suffire. Alors, il y a trois autres écoles qui se classent par, donc encore une fois, je le répète, ce sont des écoles de la conscience morale. Ça n'est possible qu'après saint Thomas, et ça n'est possible qu'après avoir fait subir à saint Thomas un très mauvais sort. Une fois que c'est fait, hein. On est très à l'aise, on est au XIVe siècle, on se concentre sur la loi, on se concentre sur les cas et on décide. Bon, alors, Médina a fondé la première école qui est l'école probabiliste. Il y a trois autres écoles, alors il y en a une dont vous connaissez le terme, parce qu'on utilise le terme dans le français courant et on l'utilise un petit peu de manière décalée. C'est ce qu'on appelle le laxisme. Alors, c'est un mot qui est passé en français courant. Et c'est un mot péjoratif. Hein. Quand on dit à quelqu'un « tu es laxiste », en général, ce n'est pas un compliment. Hein. Ça veut dire que c'est une espèce de laisser-faire délibéré, le laxisme. Hein. Tu es laxiste avec tes enfants, ils peuvent faire n'importe quoi. Tu ne les éduques pas, tu ne leur apprends pas le respect, tu es laxiste. Et figurez-vous que le mot « laxiste », c'est une école de la conscience, donc à l'époque, ce n'était pas du tout péjoratif. Et simplement, dans l'école de la conscience laxiste, vous choisissez l'option éthique la plus basse. Mais c'est encore une éthique. Vous avez le droit, et c'est même éthique, si vous souhaitez laisser à vos enfants la possibilité de, je sais pas quoi, de refuser le baptême, de choisir telle ou telle formation, de telle ou telle, etc. Vous êtes laxiste, mais c'est encore éthique. Aujourd'hui, c'est une critique. L'école laxiste, c'est simplement l'école qui choisit, on va dire, le degré de délibération éthique ou de rigueur éthique le moins élevé. Mais ce n'est pas immoral d'être laxiste. C'est une position qui est morale, qui est éthique, si vous voulez. Mais c'est la position la plus faible. À l'opposé de l'école laxiste, donc l'école qu'on pourrait dire qui est la plus rigoureuse, la plus exigeante, la plus dure, la plus sévère, alors là c'est un mot qu'on ne connaît pas en général parce qu'il est directement inspiré du latin, c'est ce qu'on appelle le tusiorisme. Tusiorisme, T-U-T-I-O-R, tusior en latin. Hein. Donc d'ailleurs le mot latin l'indique, hein, être tusioriste, c'est choisi à l'école, c'est presque de l'élitisme, si vous voulez, moral. C'est la rigueur morale la plus haute, la plus sévère. C'est le choix le plus difficile. Restons dans des exemples très simples, et vous voyez que c'est parfaitement contemporain. On va rester dans l'exemple ce soir du médicament ou du vaccin. Après tout, c'est l'actualité, hein, encore. Eh bien, si on a le moindre doute, parce que vous imaginez la place du doute dans les écoles de la conscience, hein, si on a le moindre doute sur l'efficacité du vaccin, sur les effets indésirables du vaccin, voilà, tel ou tel, qui, on en a entendu parler des effets indésirables du vaccin. Encore aujourd'hui, j'ai vu un cas d'une jeune femme, d'effets indésirables du vaccin. Si on a le moindre doute sur l'efficacité du vaccin chez les mineurs, chez les enfants, l'école tussuriste va recommander d'interdire le vaccin. Parce que le bénéfice-risque, le bénéfice-risque n'y est pas. Donc, on ne prend pas, on ne choisit pas le moindre risque, ce n'est pas possible. Il faut être sûr à tous les coups. Hein, Tussior, c'est l'école la plus sûre, la plus rigoureuse, la meilleure. Et donc, si on a le moindre danger sur... on va rester encore sur les médicaments. On a tous fait des otites avec des... on a tous pris, il y a toute une gamme d'antibiotiques qui risquent d'être interdits maintenant, et parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelques cas d'effets très graves d'un antibiotique sur en particulier la marche. Même très embêtant, hein, quand, à cause d'un antibiotique, si vous avez des problèmes de locomotion, ce n'est pas évident. À ce moment-là, on retire l'antibiotique. Et l'antibiotique en question est sur le point d'être retiré. On a tous pris, restons sur l'exemple du médicament, c'est pas si mal que ça, on a tous pris il y a 10 ans du Diantalvic. Enfin, si vous vous souvenez de ce médicament contre les douleurs. Ah oui, mais on s'est aperçu que le Diantalvic avait des effets secondaires chez certains patients, un petit peu embêtants. On a retiré complètement le Diantalvic. Et là, on a pris une position tussuriste. Elle est tussuriste, cette position, parce que vous avez des médecins aujourd'hui qui disent ah ben, c'est pas parce qu'on a eu quelques cas embêtants qu'on aurait dû retirer le médicament. Et là, on a retiré complètement le médicament, parce qu'on a pris une position tussuriste, c'est-à-dire aucun risque. Donc, ça fait trois écoles. Hein. L'école la plus souple pour aller vite, l'école laxiste. L'école la plus dure dans les cas de conscience, l'école tussuriste. L'école modérée, qui est la première, probabiliste, donc vous avez donné l'exemple du pape François au début, je n'aurais pas pensé, mais je pense que vous avez raison. C'était probablement probabiliste, on va dire. Et puis, si je veux être tout à fait complet sur ce que je vous raconte, il y a une quatrième grande école de la conscience morale. Quatrième grande école, je vous la cite, mais je m'en veux presque parce que ça va vous faire rire tellement. Le nom est, vous savez, l'étude des cas de conscience, c'est quand même couper les cheveux en quatre. Hein. Et faut-il que ce soit moi qui vous dise ça, moi qui n'ai plus de cheveux, mais les moralistes parfois coupent les cheveux en quatre. Alors, ils se sont rendus compte que l'école de la probabilité ne concernait pas tous les cas. Donc, ils ont créé, d'autres théologiens ont créé une autre école qui s'appelait l'école je vois que madame prend des notes, alors probabilioriste. Si vous vous souvenez de votre latin, probabilior, c'était un comparatif. Hein. Donc probabilior, ça veut dire plus probable. C'est plus probable. Si le pape avait été probabilioriste, je ne sais pas si on aurait eu le vaccin au Vatican tout de suite, hein, il aurait été un peu plus exigeant. Ces écoles de la conscience, alors voilà, les écoles de la, il faut vous imaginer des siècles de théologie morale avec des théologiens moralistes tenant d'écoles de morale, ils s'engueulaient, hein, ils n'étaient pas du tout d'accord entre eux, hein, ils appartenaient à telle ou telle école, et puis on instruisait des cas dans la casuistique. Là, vous avez le tableau de la théologie morale après saint Thomas, et vous voyez bien que le problème de ces écoles de la conscience, c'est que à force d'être obsédé par la loi, sont des écoles qui ont permis de se... Enfin, qui se sont polarisées sur le bien et le mal. Un acte est bon ou un acte est mauvais. Hein? Mais se polarisant sur le bien et sur le mal, ces écoles ont fini par polariser la théologie morale sur la transgression de la loi, donc sur le péché. Saint Thomas était le tenant d'une morale des vertus. Hein, je vous ai expliqué, la vertu, c'est un dynamisme. La vertu, c'est une disposition permanente, une disposition persévérante à faire le bien, à agir selon le bien. Eh bien, après Saint Thomas, les écoles de la conscience se focalisent sur la loi, donc vous êtes dans la loi, vous êtes hors la loi, c'est à ce moment-là où les théologiens moralistes vont donc peu à peu se focaliser sur le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi. La vertu nous centrait sur le bien, la loi va maintenant nous est sur la faute, le péché, la transgression. Alors, je ne veux pas être trop dur avec les écoles de la conscience, parce que la conscience, j'allais dire, c'est quand même une grande idée. C'est quand même le propre de l'individu, j'allais dire autonome, mot que je n'ai pas encore prononcé, hein, autonomie. Hein, mais c'est quand même la grande idée de l'homme moderne, libre, autonome, rationnel, capable de décider précisément en conscience, donc il y a quelque chose de la spécificité et de la grandeur qu'on se fait de la personne humaine quand on dit qu'une personne humaine a sa conscience. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de complètement central, vous voyez. Par exemple, je prends un exemple d'actualité, la question du consentement. Le consentement suppose que la personne soit mature, majeure, et qu'elle puisse donner librement et en conscience son consentement. C'est plus qu'une grande idée, c'est génial. Hein? C'est quand même le propre de l'individu moderne, maître de lui-même, capable de décider, de choisir le bien et le mal. Enfin, le bien, de distinguer le bien du mal. Mais la limite de la conscience, premièrement, c'est de faire de l'homme un individu tout puissant. Je délibère en conscience. Donc, si je délibère en conscience, figurez-vous, je peux même me passer de Dieu. Parce qu'en conscience, je décide que Dieu n'existe pas. J'ai plus besoin de Dieu. Je suis à moi-même mon propre créateur. Et je décide de façon autonome. Et la face obscure de la conscience, c'est aussi que la conscience peut-être peut s'obséder sur le péché, sur la faute, sur la transgression. Il y a un... Alors, après saint Thomas d'Aquin, les écoles de la conscience se sont peu à peu mises en place. Elles ont régné en gros jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, est apparu un individu dont l'Église a fait d'ailleurs le patron des théologiens moralistes, encore aujourd'hui, donc dont la fête au calendrier des saints est le 2 août, et qui s'appelle Alphonse, Saint Alphonse, Saint Alphonse de Ligorie. Pour la petite histoire, Saint Alphonse de Ligorie, c'est lui qui a fondé la congrégation des rédemptoristes, qui existe toujours, hein, il y a toujours des rédempteurs, la congrégation du Très-Saint Rédempteur. Bon. Et il se trouve que Saint Alphonse de Ligorie a fait une synthèse, un travail extrêmement important, extrêmement ardu, il a fait une synthèse, il a écrit une somme qui synthétise tous les courants tous les courants de la théologie morale de la conscience. Mais pas pour les dépasser. Il en a fait une synthèse, mais pas pour les dépasser. Et puis, alors, il a... Et alors là, accrochez-vous, parce que comme il a fait une synthèse équilibrée de tous les courants de l'école de la conscience, ben, ce serait trop simple. Il a, au XVIIIe siècle, créé sa propre école qui est censée donner un équilibre, si vous voulez, dans les différentes écoles de la conscience, parce que tous ces gens s'étripaient joyeusement. Alors, le nom de l'école d'Alphonse de Liguori, qui se présente comme la synthèse, c'est ce qu'on appelle, madame, prenez note, tranquillement et paisiblement, ça s'appelle l'équiprobabilisme. Là, je vois que vous vous bidonnez carrément, vous avez raison. Hein. L'équiprobabilisme. Équi, égal, voilà, très bien, égal, probabilisme. Bon. C'est une tentative faite par Alphonse de Liguori, mais ça a été adopté, hein, de synthèse des écoles de la conscience. Le problème, c'est que c'est toujours une école de la conscience. Donc, Saint Alphonse de Liguori, il est saint, hein, il a été canonisé, et il est même le patron des théologiens moralistes, mais Alphonse de Liguori a fait une école de la conscience. Il n'est pas du tout revenu à l'équilibre de Saint Thomas. Moi, mon idée, c'est qu'on sait définitivement, sauf si vous avez envie de faire mieux que Saint Thomas d'Aquin, hein, mais on s'est définitivement éloigné de Saint Thomas d'Aquin quelques dizaines d'années après la mort de Saint Thomas, alors même qu'on disait commenter au plus près Saint Thomas. Et on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé l'équilibre qu'il avait atteint. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est un peu ardu ce que je raconte ce soir, parce que c'est la présentation de courants théoriques avec des noms un peu compliqués. Mais dites-vous que, voyez, c'est loin d'être le passé. C'est toujours actuel, même si on ne connaît pas ce fond historique. On ne le connaît pas, mais je vous assure que dans le droit aujourd'hui, quand vous avez des publications, le courant casuistique est toujours tout à fait vivant. Il y a une casuistique en droit qui est très puissante, qui existe, enfin, ils en font. À l'hôpital, on fait de l'étude de cas, etc. Donc, ces éthiques de la conscience qui sont issues du christianisme, maintenant se passent joyeusement du christianisme, elles sont issues du christianisme, mais on les applique toujours. Simplement, elles ont été sécularisées. Elles ont été d'autant plus facilement sécularisées, comme je vous l'ai dit, qu'on les a séparées de, finalement, pour caricaturer, on les a séparées en gros de l'Évangile, hein. L'Évangile du salut, la bonne nouvelle du salut. Et donc, on peut tout à fait, l'homme rationnel moderne athée peut tout à fait par lui-même, le Concile Vatican II d'ailleurs le dit, même Vatican I, hein, peut tout à fait par lui-même chercher honnêtement la différence entre le bien et le mal, et pour autant se passer de Dieu et de la révélation chrétienne. On n'a pas besoin d'être chrétien pour faire de la casuistique, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire une bonne étude de cas en conscience. Et on peut même choisir le bien quand on n'est pas chrétien. Les pères de Vatican I, premier concile du Vatican, le reconnaissaient. Vatican II, pareil.
La judiciarisation de la société a probablement favorisé ce développement de point de vue moraux. Très attaché à la loi et non pas.
La judiciarisation de la société, c'est la porte à incandescence,
oui,
l'éthique de la conscience. En médecine, on connaît ça très bien, hein, malheureusement. L'hyperjudiciarisation fait le principe de précaution.
Le principe de précaution, oui.
Le principe de précaution, c'est portée à incandescence une forme d'éthique de la conscience. Donc c'est là on anticipe, vous voyez. Le principe de précaution anticipe sur une décision qui pourrait être mauvaise. Donc par précaution, on ne le fait pas. Parce qu'on doute. On doute qu'on soit capable de poser un acte bon. Et donc, pour éviter de poser un acte possiblement bon, on met le principe de précaution dans la possiblement mauvais, pardon, on met le principe de précaution dans la Constitution. Je vous rappelle que c'est Jacques Chirac qui a introduit le principe de précaution dans la Constitution française. Vous voyez, c'est parfaitement sécularisé, mais le principe de précaution, c'est une application moderne du doute de la conscience. Je pense aussi que par précaution, on a vacciné un peu tout le monde. On aurait pris un peu plus de risques, on aurait vacciné les populations plus vulnérables. Par précaution, on a vacciné tout le monde. Bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, on évolue dans ce monde-là. Nous-mêmes pratiquons d'ailleurs des éthiques de la conscience, hein, sans le savoir, tout en le sachant. Mais elles sont ancrées, enracinées, originées dans la foi chrétienne, dans la morale chrétienne, hein, mais elles s'en sont évadées, autonomisées, et nous en avons maintenant des versions séculières qu'on utilise tous les jours. Je vous donnerai d'ailleurs le nom, et là madame n'a pas fini de noter, parce que le nom de ces nouvelles éthiques de la conscience, parce qu'elles ont aussi des noms un peu sauvages, vous allez voir, là aussi qu'on utilise, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, qu'on utilise un peu tous les jours, et qui sont vraiment très loin de la morale des vertus du bon vieux Thomas d'Aquin, hein, franchement très loin. La morale des vertus de Thomas d'Aquin, vous l'avez encore dans le catéchisme. Dans le catéchisme et dans les encycliques des papes. Il est évident que les encycliques, le magistère, hein, utilise à longueur de page la morale de saint Thomas. Mais parce que c'est une morale métaphysique, hein, c'est une morale théologale. C'est une morale qui nous oriente vers le royaume. Nos contemporains s'intéressent très peu au royaume, voyez-vous. Voilà, je vous propose de faire une pause de quelques bonnes minutes là, hein, ça vous reposera, d'ailleurs moi aussi, et donc vous pouvez couper le son et l'image, et on se retrouve d'ici quasi 10 minutes, hein. Ok ? À tout à l'heure.
Merci.
Bon. On va reprendre. Avez-vous des questions? C'est vrai qu'on est étrangement, on est en tout petit comité ce soir. Bon, c'est comme ça.
Il y a un match de foot.
Voilà, je vais te dire la même chose. Il y a un match de foot, je ne sais pas, on ne m'a pas prévenu. Enfin, on nous cache tout, enfin, je ne sais pas, c'est bizarre.
C'est bizarre, bizarre.
Une intervention de Mme Borne.
Ah, je comprends que ce soit tellement plus passionnant qu'un cours sur les éthiques de la conscience.
Vous avez eu du monde cet après-midi ?
Ouais.
D'accord.
Mais cet après-midi, c'était en présentiel. Hein.
Mmh.
Alors, pas de questions, ça va ? Bon, c'est un peu, c'est compliqué hein, ce que je vous raconte, j'en ai bien conscience, c'est ce qu'a de le dire. Mais je ne vois pas très bien comment...
Il faut en conclure que les gens souhaitent vous voir de plus près.
Oui.
Ils étaient plus nombreux cet après-midi.
Mais d'un autre côté, vous savez, il y a une dynamique différente hein, dans un cours en, en direct et bon, c'est un peu différent. Mais je constate toujours la même chose. Je suis plus complet le soir que l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi, mais sans doute parce que le soir, il y a des éléments, spontanément, il y a des éléments qui reviennent que je n'ai pas pensé à dire l'après-midi. Bon, c'est comme ça. Alors, oh, peut-être que j'arrêterai un tout petit peu avant 22h parce que je suis lessivé de ma journée. Alors, je voulais quand même vous, absolument que je vous nomme, oui, aujourd'hui, les grandes théories éthiques contemporaines qui sont en place, en gros, qui sont celles de la, enfin, sont celles de la mondialisation capitaliste. La mondialisation capitaliste, nous qui sommes des petits capitalistes de base avec notre économie domestique autour de nous, mais les grands dirigeants, les grandes entreprises, les vivent à partir des éthiques sécularisées de la conscience, de façon tout à fait délibérée. Nous, peut-être, on n'a pas d'autre choix, mais eux le font tout à fait délibéré. Hein. Donc, nous pataugeons, nous surnageons dans les éthiques de la conscience appliquées par le capitalisme libéral d'aujourd'hui, mondialisé a fortiori. Alors, c'est quand même, c'est pas anodin, parce que sachez que tous les papes, depuis le Concile Vatican II, ont peu ou prou condamné ces théories éthiques. En particulier, Jean-Paul II. Hein, il y a une encyclique de Jean-Paul II qui s'appelle, il y en a deux, mais il y en a surtout une qui s'appelle « La foi et la raison »,« Fides et ratio ». Une autre qui s'appelle Sollicitudo rei socialis, hein, la sollicitude pour les choses sociales. Une autre encore qui s'appelle Centesimus annus. Vous sentez que c'est un anniversaire. Centesimus annus. Ça devait être l'anniversaire de Rerum Novarum, donc l'encyclique de Léon XIII sur la morale sociale. Bon, Rerum Novarum. Donc, retenez ces noms si vous voulez aller les voir. Donc, Sollicitudo rei socialis et Centesimus annus. En gros, dans ces encycliques, le pape condamne les théories éthiques contemporaines, mais qui sont celles du capitalisme que nous utilisons tous les jours. Problème quand même. Hein. C'est le problème d'ailleurs souvent qu'on nous compose aux catholiques, hein, que ce soit les philosophes, la société, les pouvoirs publics, parfois, à savoir qu'est-ce que vous proposez, vous, les chrétiens, en termes de morale éthique, de morale sociale et économique. Parce qu'en gros, vous n'êtes ni marxiste, ni capitaliste. C'est vrai que les papes, en particulier Jean-Paul II, ont pratiqué un nini systématique. Nous n'épousons aucune idéologie économique ou sociale, aucune, ni le modèle communiste, marxiste-léniniste, si vous voulez, ni le modèle capitaliste. Bon, alors, le modèle marxiste-léniniste, à part dans quelques dictatures, il a du plomb dans l'aile, mais enfin, il a du plomb dans l'aile, mais bon, bref. Hein, bref. Et le triomphe tout de même la mondialisation capitaliste, face à laquelle on vous dit qu'il n'y a aucune alternative. C'est le seul modèle qui marche, tous les autres modèles, on les a essayés, ils ne marchent pas. Bon, je laisse ça aux économistes, bon, je ne suis pas économiste, mais j'ai mes petites idées, mais je... bon, voilà. Mais sachez que toutes les théories économiques, enfin les modèles éthiques qui inspirent le capitalisme sont créés par les papes. Pourquoi ? Pourquoi ? On va reprendre ce que je vous ai dit au tout début de ce cours, à savoir, ce soir, à savoir la moralité de l'acte. Qu'est-ce qui fait la moralité de l'acte ? Pour un catholique, c'est l'objet. Et puis après, la finalité, c'est-à-dire le sens que vous donnez à l'action, le but. Et puis, troisième point, les circonstances. Dans les théories économiques actuelles, les modèles économiques et sociaux actuels, l'objet de l'acte, je ne dis pas qu'ils s'en fichent, mais ce n'est pas leur préoccupation. La préoccupation, c'est le but, le sens, la fin, les conséquences, le projet, l'avenir, ce qu'on veut construire. Alors, ces théories éthiques, marquent, sont celles donc, des sociétés démocratiques sécularisées. Hein. Ce n'est pas pareil en Russie, je vous rassure. Ce n'est pas pareil en Chine, je vous rassure. Enfin, je ne sais pas si c'est très rassurant d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans l'avenir, ça risque d'être encore moins vrai, puisque si la Russie se coupe du monde, plus ou moins, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais depuis Eltsine en Russie, ils avaient essayé d'introduire du capitalisme en Russie. Hein. Alors un capitalisme mafieux, complètement dégradé, dépravé, mais un capitalisme quand même. Bon, maintenant, je ne sais plus ce qu'ils vont devenir. Hein. Mais nous vivons sous l'empire, ou l'emprise peut-être, hein, du capitalisme mondialisé. Les théories éthiques, elles ont les trois les plus connues, elles sont extrêmement proches, moi je trouve, les unes des autres, hein, au point d'être assez à s'y méprendre. Hein. Enfin, il y a trois noms qu'on retrouve le plus souvent. Alors là encore, on va continuer. Vous connaissez ce film, Le déclin de l'Empire américain ? Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ah bon ? Parce qu'il y a un moment donné où ils prennent un repas, tous ensemble, c'est des boomers, hein. Donc c'est des gens comme nous, si vous voulez. Et alors ils se retrouvent après avoir bien vécu, ils sont à la retraite, et puis ils prennent un bon repas dans un chalet. Et il y en a un qui dit, autour d'un bon verre de vin, nous, dans notre vie, on a connu tous les ismes, c'est-à-dire toutes les idéologies, capitalisme, machin, etc. Alors là, je vais vous donner trois ismes de plus. Donc, il y a trois théories éthiques contemporaines, sécularisées. Le conséquentialisme. Ah oui, c'est très chic. C'est très bien pour aller aux soirées du nonce, c'est très chic, et pour parler à l'archevêque de Paris. Donc le conséquentialisme, l'utilitarisme, ça parle plus, et moins connu, le proportionnalisme. Ce sont trois théories éthiques modernes qu'on utilise sans le savoir. Conséquentialisme, utilitarisme, proportionnalisme. Les fondateurs, ce sont des anglo-saxons, comme dirait le général de Gaulle. Il y a deux fondateurs importants, qui sont des philosophes moralistes, John Stuart Mill, M-I-2-L, John Stuart Mill et Jeremy Bentham. Alors, si bien prononcé en anglais, on met la langue là, ça donne Bentham, Jeremy Bentham. Bon. Donc, John Stuart Mill et Jeremy Bentham, d'accord ? Donc, conséquentialisme, utilitarisme, proportionnalisme. Conséquentialisme, très facile, hein, ça veut dire en conscience, je décide mon action en fonction des conséquences de mon action. Si j'espère une conséquence bonne, j'agis. C'est bon. L'utilitarisme, si je considère que mon action est utile, qu'elle est utile pour moi, figurez-vous. Qu'elle est utile pour mon groupe. Ça peut être ma famille, ça peut être la communauté nationale. Lui qui fait de l'utilitarisme considère que telle ou telle loi, excusez-moi, normalement c'est le Parlement qui fait la loi, gardons cette illusion, bon, telle ou telle décision, hein, il est utile au plus grand nombre, eh bien, il prendra. En plus, si le président de la République se rend dans les institutions européennes, encore mieux, à l'ONU, il se rend compte que ce projet, cette décision, elle va être utile à toute la planète, dans un temps record. Par exemple, je dispose des vaccins. Je me rends compte que pour arrêter l'épidémie, d'ailleurs c'est complètement foiré ça, mais pour arrêter l'épidémie, on a le vaccin. Donc je décide de, alors on ne peut pas, mais on aurait pu, on ne peut pas, généraliser le vaccin, en tout cas au plus grand nombre de pays, eh bien, la décision est bonne. Elle est bonne parce qu'elle est rapidement généralisable, donc utile au plus grand nombre, c'est-à-dire je peux maximaliser ma décision bonne pour le plus grand nombre de gens. C'est ça l'utilitarisme. Donc c'est franchement ce qu'on fait tout le temps, hein, en particulier nos dirigeants. Si les chefs d'entreprise, vous voyez, c'est vraiment la définition même de ce que fait le capitalisme mondialisé. Et alors le proportionnalisme, c'est à peu près la même chose. Proportionnalisme, vous savez, c'est en anglais to balance. Hein, to balance, ça veut dire, on peut traduire par balancer si on veut, mais c'est, disons, équilibrer en proportion. C'est typique du bénéfice-risque. Je proportionne et je considère que les bénéfices de la décision sont supérieurs au risque. D'ailleurs, on retrouve les anciennes éthiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si probablement le bénéfice est supérieur au risque, la décision est valable, elle est bonne, je la prends. Vous avez là trois théories éthiques qui sont en cours depuis le XVIIIe siècle et qui sont la marque du capitalisme néolibéral ou néolibéral, peu importe, d'aujourd'hui. Et je vous ai dit, le magistère est très peu à l'aise avec ça, hein, très très peu à l'aise. Un exemple, là je vais me placer, je vais reprendre les exemples de tout à l'heure, du côté par exemple de l'éthique de la santé, de l'éthique du médicament. Vous allez tout de suite. Pour le coup, j'en ai parlé cet après-midi. Je prends l'exemple des médicaments antalgiques. Un médicament antalgique, le premier but d'un médicament antalgique, c'est atténuer ou supprimer la douleur. Ça, d'ailleurs, vous voyez, c'est le but. Quand vous prenez un médicament antalgique, hein, on vous a suffisamment dit de prendre du paracétamol et de rester chez vous avec du jus de citron plutôt que d'appeler le médecin. Bon, c'est comme ça. C'est pas la médecine que j'ai entendue dans des facs il y a longtemps. Enfin, c'est la médecine actuelle. Vous restez chez vous et puis vous prenez votre jus de citron et votre paracétamol. Bon, très bien. Si vous prenez du paracétamol, c'est le premier but, la première conséquence de l'action pour vous, bonne escomptée, c'est d'avoir moins mal. C'est l'antalgique. Oui, mais si vous prenez trop de paracétamol, vous bousillez le foie. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Si vous dépassez la prescription, on se bousille le foie. Hein. Les antalgiques ont ce qu'on appelle en éthique, justement, un double effet. C'est une théorie, c'est la théorie du double effet. Je prends l'exemple des antalgiques qui sont très sédatifs. Il y a des antalgiques qui sont très puissants. Ils sont tellement puissants que si on les prescrit à des doses importantes, eh ben, le patient meurt, figurez-vous. Il meurt, ou en tout cas, on précipite son déclin. Le cœur ralentit, etc. Ça n'empêche pas de les utiliser. Donc, il y a un double effet du médicament. Le premier effet, il est positif. Il soigne la douleur. Donc, le médecin prescrit. Le deuxième effet, il est négatif. Et pourtant, on prend la décision de prescrire. Si je prends la prescription des antalgiques, au regard du catéchisme de l'Église catholique, je ne peux pas prescrire des antalgiques. En tout cas, pas tous. Parce que si vous prescrivez un antalgique qui va provoquer la mort du sujet, l'objet de votre acte, il est mauvais. Il est mauvais. C'est-à-dire que vous escomptez que la personne souffrira moins, mais en même temps, comme dirait M. Macron, voyez comme quoi M. Macron, il est tout à fait dans les théories éthiques contemporaines, en même temps, vous risquez de provoquer la mort du sujet. Donc, normalement, vous ne pouvez pas le faire. Un bon catholique, pardonnez-moi, ne le faire. La finalité est bonne. La personne souffrira moins. Et une autre finalité qui est mauvaise, parce que l'acte est mauvais, l'objet de l'acte est mauvais, c'est-à-dire qu'il y a la mort à la clé. Et comment ça se fait que les catholiques prennent quand même des antalgiques? Je n'ai pas entendu dire qu'on n'avait pas le droit de prescrire ni de prendre des antalgiques, même des antalgiques puissants. Il y a même des soins palliatifs. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Eh bien, figurez-vous que dans les années 50, à Rome, au Vatican, de manière tout à fait innovante d'ailleurs, le pape Pie XII, mesdames, c'est la même question que l'accouchement dans la douleur. Hein. Il fallait accoucher dans la douleur, dans la souffrance. Pour que ce soit moral, il fallait accoucher dans la souffrance. Et le pape Pie XII, dans les années 50, 53, 54, 55, a réuni des grands congrès internationaux de médecins, neurologues, algologues, comme on dit, psychiatres, mais surtout essentiellement des neurologues, donc les spécialistes de la douleur, c'est beaucoup les neurologues, les rhumatos, etc. Sur la question de la prescription, est-il moralement licite d'utiliser les antalgiques? La réponse du pape a été oui. Alors moi, je trouve ça très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre des antalgiques. Je ne vous dis pas le problème si le pape avait dit non, hein. Pas où on en serait, hein. Pour le coup, c'est le jus de citron. Antalgique, il a dit oui. Mais il a dit oui, si j'ose dire, en conscience. Le pape sait très bien que si on utilise trop les antalgiques, il peut se passer beaucoup de choses, ce qu'on appelle le double effet. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, actuellement, les médecins de soins palliatifs, hein, je pense à Jeanne Garnier à Paris, etc., ce sont des une façon de s'occuper de la fin de vie dans la dignité des personnes, tout à fait acceptée par l'Église, et même encouragée par l'Église catholique. Parce qu'on sait que, bien qu'utilisant des antalgiques, ils ne vont jamais provoquer une euthanasie directe. Vous voyez le pitch ? Bon. Donc, je vous ai cité les trois théories éthiques contemporaines, sécularisées, les plus en vogue, qui sont normalement pas très bien appréciées par le magistère, mais que le magistère utilise quand même de temps en temps. Je vais donner l'exemple dans l'éthique de la thématique des médicaments, et je pourrais donner plein d'autres exemples. Donnons un exemple de morale politique. Le pape est un chef d'État aussi, ce n'est pas seulement un chef religieux, c'est un chef d'État. Vous savez, il a une mission diplomatique, ce qui fait qu'il ne peut pas dire n'importe quoi à Poutine en ce moment, parce qu'il est aussi chef d'État. Bon, ça m'agace. Voilà. Et donc, il est chef d'État. Il n'est pas permis pour le chef d'État, qui est le pape, qui est le chef de l'Église catholique, il n'est pas permis de frayer avec un dictateur. Ce n'est pas possible, c'est moralement illicite. Je pense à Jean-Paul II, par exemple, en 1980 et des poussières, dans les années 83-84, le pape ne peut pas donner l'impression qu'il dialogue d'égal à égal avec un dictateur. Ce n'est pas possible. Oui, mais le pape est allé à Cuba en 83, en pleine dictature. Pourquoi il est allé à Cuba? D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez ce voyage, c'est très ancien, ça lui a été beaucoup reproché d'aller. Parce qu'il allait dans un mur communiste en plus. Donc un régime qu'il désapprouvait, un régime intrinsèquement mauvais. Il y est allé, comme chef d'État. Et on sait très bien, et on a su très bien, que s'il y est allé, c'est parce que le but de son voyage, c'était d'obtenir la libération des victimes de la dictature. Ce faisant, le pape Jean-Paul II a appliqué une théorie éthique moderne. Il n'aurait jamais dû aller à Cuba. L'objet du voyage était mauvais. Il est allé à Cuba parce qu'à Cuba, il a voulu obtenir la libération des opprimés du régime castriste. C'est-à-dire qu'il a d'abord considéré la finalité de son voyage. Bon, on pourrait multiplier les exemples de ce genre. Hein. Je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure suite à réponse à une question sur la question du droit de la guerre. Il n'est jamais permis de tuer. Et pourtant, on se fait la guerre, et il y a même une théorie de la guerre juste que vous trouvez au XIIIe siècle chez saint Thomas d'Aquin. Laquelle théorie, maintenant, non seulement elle est parfaitement connue, mais elle est passée dans le droit international, elle est appliquée, etc. Vous pouvez mener une guerre, elle est juste si vous défendez, premièrement, si vous défendez les vôtres, c'est ce qu'on appelle la légitime défense, et deuxièmement, si la défense, l'agression, ne va pas commettre, si vous voulez, plus de dégâts que l'agression. Donc il y a une sorte de proportion, justement, dans l'argument. Si ces conditions sont réunies, vous pouvez faire la guerre. Et faire la guerre, ça veut dire tuer. Or, il n'est jamais permis de tuer. L'objet est toujours mauvais. Tu ne tueras pas. Mais la finalité de l'action, si on mène la guerre, les conséquences de l'action, c'est protéger ma famille, protéger mon pays. Le soldat protège, et s'il protège son pays, l'option possible, c'est de tuer un ennemi. Vous voyez, on ne peut pas se contenter, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'une morale de l'objet, déjà, on est bien obligé de considérer aussi, mais toute la difficulté est là, de considérer le but de l'action et les circonstances de l'action. Je prends encore un autre exemple qui me vient à l'esprit. Le viol des femmes à Sarajevo, c'était encore sous le pontificat de Jean-Paul II, dans les années 80, vous savez, à Sarajevo, des soldats avaient violé un nombre incroyable de femmes chrétiennes qui ont posé la question au pape, pouvons-nous avorter ? Jean-Paul II a refusé, parce qu'il n'est jamais permis d'avorter. Ça avait créé un remous assez considérable, d'autant qu'à l'époque, les imams, plusieurs imams, savaient l'autorité en islam est gérée différemment, mais de grandes autorités musulmanes avaient dit qu'en cas de viol, l'avortement était licite. Mais pas le chef de l'Église catholique. Parce que l'objet est mauvais, on ne peut pas retirer la vie. Donc, ces différents exemples, hein, mais l'idée que je voulais faire placer dans votre esprit pour qu'elle essaye d'y trouver sa place et qu'on essaye d'y aller ensemble, qu'on peut vraiment critiquer les théories éthiques contemporaines. Les papes ne s'en sont pas privés. On ne peut pas exactement toujours s'en exempter. Bon, la guerre, l'éthique de la santé, il y aurait plein d'exemples comme ça. Où finalement, une morale de l'acte, et en particulier une morale de l'objet, l'objet bon, l'objet mauvais, ne suffit pas. Et comme on a mis de côté la question médiévale des vertus, comme nous nous centrons de plus en plus, les papes d'ailleurs avec nous, sur l'acte, bon ou mauvais, eh bien, il ne nous reste que les études de cas, la conscience morale, la grandeur de l'autonomie de l'homme moderne qui s'est évadé des références patriarcales, on dirait aujourd'hui, coloniales d'autrefois, et qui décide en conscience, éclairé et informé, s'il peut ou pas poser tel ou tel acte. Voilà. Peut-être une dernière notation. La morale de l'acte, la morale de l'objet en particulier, l'objet de l'acte, hein, elle est surtout pratiquée par le magistère, par beaucoup de théologiens, bon, mais par le magistère surtout, dans le cadre de l'éthique sexuelle et conjugale. L'éthique sexuelle familiale, hein, c'est une morale qui est très axée sur les normes, hein, et le caractère bon des actes que l'on pose. Donc là, c'est principalement cette morale-là qui est appliquée, morale de l'acte, morale de l'objet. Sur tout ce qui est économique et social, même le magistère s'autorise à être beaucoup plus innovant, beaucoup plus audacieux, et a tendance à s'évader. Je le donnais par exemple, vous voyez, sur l'éthique, on parlait de l'éthique du médicament. La décision sur les antalgiques date des années 50. Des années 50. Eh bien, dans les années 50, Pie XII a utilisé les antalgiques. C'était pionnier à l'époque. Ah oui ? Eh bien, en 1968, une génération après, Paul VI interdit la pilule, la contraception chimique. Vous voyez ? Donc, sur tous les terrains qui touchent à l'éthique sexuelle et familiale, le courant moral qui est le plus facilement appliqué par le magistère, c'est la morale de l'acte, bon ou mauvais. Sur les questions de morale économique, de morale sociale ou société, enfin sociétale, non, morale économique, morale sociale, l'Église en général utilise, je ne dirais pas une morale XXL, mais une morale beaucoup plus innovante. Hein. C'est un constat que beaucoup de théologiens font, et moi, il y a un ancien professeur de théologie morale, un de mes anciens professeurs qui est mort maintenant, un jésuite qui s'appelait Jean-Yves Calvez. Et le père Calvez est connu pour une formule qui a dit « La morale catholique est à deux vitesses. » Il y a une vitesse pour tout ce qui est éthique sociale, pour tout ce qui est éthique sexuelle et familiale, c'est une vitesse assez lente, n'est-ce pas ? Et il y a une vitesse plus rapide qui concerne la morale économique et sociale. Le problème, c'est que nous-mêmes, ou beaucoup de nos contemporains, nous constatons ces deux vitesses. Et qu'il y a une certaine, je ne sais pas ce qu'il faut dire, incohérence, en tout cas, il y a une certaine tension entre ces deux vitesses, la vitesse plus rigoriste, si vous voulez, liée à l'éthique sexuelle, et une vitesse plus audacieuse qui concerne les choix économiques et sociaux. Regardez les choix économiques, dans Laudato Si, le pape François fait l'apologie de la décroissance. L'apologie de la décroissance. Ça, c'est un choix économique innovant, la décroissance. Moi, je me savais, quand l'encyclique est sortie, j'ai dû aller présenter l'encyclique Laudato Si à des chefs de PME. J'ai vu leur tête quand je leur ai dit que le pape prêchait la décroissance. Ça leur a fait drôle, hein, à ces chefs d'entreprises petites et moyennes catholiques. Hein, et plusieurs ont dit à la pause, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être décroissants ? Comment on va pouvoir être décroissants ? Ce n'est pas possible. On ne va pas y arriver. Vous voyez, sur les choix économiques et sociaux, il y a une innovation, on pourrait dire, sur l'écologie, d'ailleurs, hein, Laudato Si. Sur l'écologie, l'Église est facilement audacieuse. On va dire prophétique, si vous voulez. Mais sur tout ce qui est conjugalité, éthique sexuelle, là, elle est prudentissime. Prudentissime parce qu'elle est avant tout dépendante de la morale de l'acte.
D'un point de vue économique, le choix de la décroissance, c'est avec la finalité, c'est la finalité qui l'emporte finalement.
Oui, exactement. Vous avez tout à fait compris, c'est la finalité. Et vous voyez, là, ça ne pose pas de problème. Mais c'est tout à fait ça, oui, bien sûr. Alors, il y a une notion que j'ai à peine évoquée, j'ai à peine prononcé le mot, mais si j'oublie, je n'oublierai pas. Mais la prochaine fois, il faut absolument, absolument que je place ça. Et donc, je vous ferai un développement sur l'idée de nature. Parce que ce qui manque à ma présentation de la théologie morale jusqu'à présent, c'est que je ne vous ai pas présenté l'idée de nature et ce qu'on appelle dans la théologie catholique, parce que c'est un concept strictement catholique, la loi naturelle. Parce que ce qui explique les deux vitesses dont je vous ai parlé, une vitesse lente pour la sexualité, une vitesse beaucoup plus rapide jusqu'à la décroissance, vous voyez, sur l'économie et la société, ce qui explique ce décalage, quand même très très présent, hein, c'est que la morale sexuelle et familiale catholique, c'est une morale de l'acte et c'est une morale de la nature, fondée sur une certaine conception de la nature, organisée autour d'un concept très important en théologie morale, qui est celui de la loi naturelle. Et j'espère qu'en vous ayant présenté le concept de loi naturelle, vous comprendrez, j'espère encore mieux, pourquoi il y a ce décalage. On a l'impression que vous voyez que ces deux vitesses qui ne se rencontrent pas très bien entre la morale sexuelle, bon, Humanae Vitae 68, etc. Et puis la morale économique qui va s'autoriser à des trucs que même les qui font peur aux chefs d'entreprise cathos, quoi. La décroissance, on n'en veut pas. C'est... Et comme vous dites, la finalité, là, l'emporte. Donc, il y a un étagement qui est différent. Une des raisons pour laquelle cet étagement est différent, c'est que la morale sexuelle catholique répond essentiellement au concept de loi naturelle. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois. J'ai présenté ça, cette idée-là, au groupe de l'après-midi. On a encore deux rencontres. La prochaine fois, c'est moi qui cause encore. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que pour la dernière de nos rencontres, hein, ça doit être le 31, je crois, mai, de mémoire, vous soyez plus participatif. C'est-à-dire, je vous propose pour la dernière rencontre une séance de questions-réponses, de questions ouvertes. Ça vous présuppose que dans la semaine qui précède, vous réfléchissiez un peu, soit à partir de ce que j'ai dit, soit à partir de ce que je n'ai pas dit, que vous auriez voulu que j'aie. Et dans ce que j'ai dit, j'ai pu être pas clair, j'ai pu être difficile à comprendre, j'ai pu sous-entendre des choses. Donc, ce qui serait pas mal, c'est que dans la dernière de nos séances, c'est vraiment une séance de questions ouvertes, et les questions morales qui vous paraissent importantes, les points que je n'aurais pas abordés, questions simples, difficiles, voilà, qu'on pourrait aborder ensemble, et j'essaierai de répondre dans la mesure. Enfin, une dernière séance un peu plus interactive, vous voyez. Alors, si on est aussi peu nombreux qu'aujourd'hui, on verra bien. Ce serait pas mal qu'on soit plus nombreux, mais voilà, je trouve que c'est plus simple. La prochaine fois, ce que je vais essayer de faire, c'est de conclure le parcours historique. Là, on est arrivé presque au bout, hein. C'est-à-dire dans les questions d'actualité, en fait. J'aurais terminé ma boucle, hein, partir du Concile pour revenir au Concile Vatican II. Hein. Et puis, je voudrais aborder les questions donc, de nature et de bioéthique, au moins quelques questions liées à la nature et à la bioéthique. Parce que là, on est vraiment en prise avec les questions d'actualité qui sont urgentes pour nos contemporains, nature et bioéthique. Ça, c'est pour la prochaine fois. Et donc, la dernière fois, j'aimerais bien une séance. Je le fais en général tous les ans, ça marche pas mal. Hein. Une séance de questions ouvertes. C'est-à-dire plus intéressant. Voilà. Encore l'une ou l'autre question avant de. Pimpronel, etc., et que le marchand de sable passe.
Oui, quand vous avez parlé de la décroissance, ces chefs d'entreprise, ils ont fini par conclure quoi ? Ils allaient fermer ?
Ils étaient très dubitatifs. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de ça, on se tenait dans une pièce où celui qui était là, parce que c'était chez lui, on le sommait d'appliquer dans son entreprise les nouvelles normes, normes écologiques en termes d'architecture. Donc, ça, la décroissance, ça lui a beaucoup parlé, si vous voulez, parce que son entreprise devait adapter déjà des normes de décroissance dues au respect de l'écologie, en utilisation de l'eau, l'électricité, etc. Mais pour répondre de manière, je pense pas très polémique, mais à votre question, le modèle de la décroissance, ils ont eu du mal, hein, parce qu'ils se sont dit, finalement, on a affaire à un pape de gauche. Ouais. D'accord ? Et il n'est pas à l'aise avec le capitalisme, plutôt de droite. Voilà. Et il prêche un modèle qui est plutôt un modèle d'une décroissance, une éco-décroissance, mais qui est très cohérent, hein, avec ce qu'il écrit, hein, dans Laudato Si. Dans Laudato Si, il a travaillé avec un tas d'économistes qui prêchent la décroissance. Il n'a pas invité, ils s'en sont beaucoup plaints, d'autres économistes, hein, qui n'étaient pas conviés à sa réflexion. Donc, on a entendu aussi pas mal d'économistes dire, le pape a choisi les économistes qui lui conviennent pour soutenir l'idée de la décroissance.
C'est probable.
L'une ou l'autre question, ça va? Bon, ce soir, peut-être plus que pour les autres séances, c'était particulièrement compliqué, mais parce que l'étape sur les éthiques de la conscience, c'est ce qui est le plus ardu, je trouve, ingrat même, même pour le prof, hein, je vous assure, qui explique. C'est un peu un morceau de bravoure, mais vous voyez, c'est quand même important de le découvrir parce qu'on est là-dedans. Et donc, c'est le paysage dans lequel nous évoluons. Et vous voyez, ce paysage, il a des racines au XIVe siècle. Et au XXIe, on en est encore largement dépendant. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu quand même vous expliquer. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. J'ai vraiment simplifié au maximum. C'est vrai que ce n'est pas évident de parler des éthiques de la conscience. Voilà. Ben écoutez, on voit, voilà, il est 21h49, oui, voilà. Je pense qu'on va arrêter là, sauf s'il y a une autre question, ça va, j'ai mécontenté personne, ça va, tout le monde est très bien. Alors, on se retrouve la prochaine fois, merci de votre patience, bonne nuit, et j'attends l'enregistrement, et à très bientôt. Hein.
Merci, bonne nuit.